et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI dans la barre de recherche de YouTube, cliquez sur le logo de RFI et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
RFI, 7h30 à Kinshasa et Paris, 6h30 à Bamako.
RFI Matin.
Le journal de Vincent Dublange, le business du désespoir, titre de cette enquête à la une aujourd'hui, Vincent.
Enquête du collectif All Eyes on Wagner sur les réseaux de recrutement de combattants africains pour l'invasion russe de l'Ukraine. Tamatav est à terre, témoignage d'habitants dans ce journal de la capitale économique de Malgache, après le passage meurtrier du cyclone Gezani il y a un peu plus de 24 heures. Confiance totale entre le président américain et le premier ministre israélien, ce sont les mots à l'instant sur RFI de l'ambassadeur israélien à Paris après la rencontre d'hier à Washington entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Entretien à réécouter à tout moment sur RFI Pure Radio.
Dialoguer avant qu'il ne soit trop tard. Au Mali, la prise de parole de Mahmoud Diko.
Et c'est aussi sur RFI auprès des rédactions Foulfoulde et Mandinkan. L'opposant en exil s'exprime. Il en appelle, je cite, à un sursaut de la population pour tracer une nouvelle voie entre les militaires au pouvoir sans élection et les djihadistes. Ils veulent, eux, parler directement au président Diomaye Faye au Sénégal. Les leaders étudiants n'ont plus confiance dans le gouvernement. Et puis la Tunisie est-elle un pays sûr pour y renvoyer des migrants en situation irrégulière, même s'ils demandent l'asile en Europe? Question que l'on se pose dans 10 minutes.
C'est une liste inédite de recrues et de combattants africains de l'armée russe.
Obtenue via le programme ukrainien Je veux vivre, qui enjoint les combattants russes à la reddition. Elle constitue cette liste le cœur d'une enquête publiée par le collectif All Eyes on Wagner, braquer les regards sur Wagner. L'idée étant de permettre aux familles de solliciter les autorités russes ou de leur pays pour avoir des nouvelles de leurs proches. Des proches partis en Russie donc, sous de fausses promesses d'emploi, voire d'études, et qui se retrouvent envoyés en première ligne pour envahir l'Ukraine. 1417 noms sont sur cette liste, 316 personnes sont officiellement décédées, 35 pays africains sont concernés, l'Égypte est en tête. L'Afrique du Sud fait également partie de la liste et il y a le Cameroun. Certains choisissent d'augmenter un peu la pression sur Moscou. Le président Ramaphosa d'Afrique du Sud a appelé Vladimir Poutine. Le Kenya hausse également le ton. Nairobi estime qu'il y a 200 Kenyans qui auraient été ainsi recrutés de force. Alban Tiroir est allé rencontrer une famille concernée.
Dans le jardin familial, dans le centre du Kenya, la famille de Charles Wataika a organisé des funérailles sans corps, qui n'a pas pu être rapatrié. Parti en Russie en octobre, ce Kenyan n'a plus donné signe de vie depuis Noël. Sa mère, Bibiana Wangari, a appris sa mort sur les réseaux sociaux.
J'ai appris qu'il avait marché sur une mine. Avant de partir, il m'avait appelé pour me dire qu'il avait obtenu un emploi pour travailler en tant que mécanicien pour la construction d'un camp militaire. Puis il m'a appelé pour me dire qu'il était en Russie. Et un jour, il m'a dit qu'il allait être déployé sur le front. Chaque jour, il m'appelait en pleurant. « Maman, je veux rentrer au Kenya, ce n'est pas bien ici. »
Les hommages se sont succédés. Denkan Chege, tout juste rentré du front russo-ukrainien, est venu soutenir la famille.
« Je remercie Dieu de ne pas avoir grand-chose. Nous étions si nombreux. J'ai vu tant de gens mourir. J'ai moi-même été touché aux jambes par des mines. Cette situation me fait très mal, car j'ai été trompé. Je suis allé là-bas, je pensais travailler comme chauffeur. Une fois arrivé, on m'a donné une formation militaire. Et même si tu dis que tu ne veux pas faire ce travail et que tu veux rentrer chez toi, on te force à aller au front. Les Russes n'ont aucune humanité. »
Denken affirme n'avoir perçu aucun salaire. Des témoignages similaires continuent d'émerger au Kenya. Nairobi dit avoir fermé 600 agences de recrutement pour endiguer le phénomène. Mais l'ONG Focal Africa affirme que les recrutements se poursuivent. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Le business du désespoir, c'est donc le titre de ce rapport du groupe d'investigateurs All Eyes on Wagner qui a été publié hier. Écoutez à ce propos Lou Osborne, elle est membre du collectif.
On a eu accès à plusieurs listes. Elles viennent principalement de partenaires d'ONG ukrainiennes. On les a rassemblées et on les a vérifiées. La manière dont elles se présentent, c'est on a une première partie de la liste qui sont donc les combattants aujourd'hui actifs. On voit leur nom, on voit leur date de naissance, on voit leur matricule militaire, on voit la date d'engagement sur le front et on voit leur nationalité. Et puis, on a une liste qui nous paraît vraiment importante, qui est la liste de ceux qui ont été tués. Et donc là, on a pareil un nom, un matricule, une nationalité, une date de naissance, une date d'engagement et une date enregistrée de décès.
Pourquoi publier cette liste? Quel est l'objectif?
Nous, aujourd'hui, on veut la publier parce qu'on pense qu'elle est d'intérêt public. Il y a plusieurs familles qui cherchent aujourd'hui leurs proches, qui ne savent pas ce qui est advenu d'eux, en fait. On pense que c'est vraiment important qu'ils aient accès à cette information.
Lou Osborne, Dola Isand Wagner, interrogé par François Mazet, qui signera le dossier du journal de 8h. Et qui signe aussi cette enquête, ce long papier sur RFI.fr et notre appli RFI. Je vous signale que Lou Osborne sera aussi l'invité d'Afrique Midi, midi 30, temps universel.
RFI 9h35 à Tamatave, la capitale économique de Madagascar, qui tente de se relever difficilement après le passage de Guézani.
Cyclone dont le cœur même a touché la grande cité portuaire dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan officiel ce matin, provisoire, fait état de 31 morts, 4 portés disparus et 36 blessés graves. Les trois quart de Tamatave serait détruit, disent les autorités. Eva Massi a pu joindre deux habitants de Tamatave.
La deuxième plus grande ville de Madagascar s'est retrouvée dans l'œil du cyclone pendant la nuit. C'est là que vit David Penn. Il raconte.
C'était effrayant. Sincèrement, c'était effrayant. Je ne pense pas qu'il y ait une seule maison qui soit épargnée. Il y en a qui sont vraiment... Le toit est complètement parti. Et il y en a beaucoup où il y a une moitié des tôles qui sont parties. Et on se retrouve donc avec des rues de circulation, avec des grandes flaques d'eau et des tôles à l'intérieur, des poteaux électriques qui barrent la route, plein d'arbres qui sont tombés. Donc très, très compliqué de circuler.
Des ONG sont sur le terrain, comme Action contre la faim, en coordination avec le Bureau national des risques et catastrophes. L'urgence, selon Rija Randriana Risoa, responsable local de l'ONG, c'est de loger et abriter les sinistrés.
C'était très intense, c'est du jamais vu, quoi. Il y a énormément de personnes qui ont tout perdu. Le plus urgent, c'est vraiment d'appuyer les ménages à reconstruire, à réparer leurs maisons, surtout ceux qui sont les plus vulnérables. Donc, dans les prochains jours, on va distribuer des matériels pour la reconstruction.
Une vingtaine de sites d'hébergement sont disponibles dans la ville, ce qui pourrait être insuffisant pour les plus de 250 000 personnes qui ont perdu leur toit.
Eva Massi du service africain.
Mahmoud Diko prend la parole. L'opposant malien s'exprime en marge de la 6e édition de la conférence africaine pour la paix à Nouakchott.
L'imam Diko qui a accordé une interview exclusive à la rédaction de RFI en full day en mandinquant. Il réitère son appel au dialogue entre tous les Maliens, dit-il, hommes politiques, sociétés civiles, groupes armés. Celui qui a lancé en décembre dernier la CFR, Coalition des Forces pour la République, pour s'opposer aux militaires, se dit inquiet de la situation actuelle au Mali, convoi attaqué, blocus pétrolier, attaque djihadiste, réplique des forces de sécurité. Pour Mahmoud Diko, il est plus que temps de stopper ce bain de sang. Écoutez.
J'avais dit cela dans le passé, je le répète encore aujourd'hui et je le ferai demain s'il le faut. Il faut dialoguer pour mettre fin à ce bain de sang qui a trop duré. Tous les conflits au monde se sont terminés autour d'une table. Donc il faut dialoguer avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, c'est inquiétant de voir la situation autour de Bamako. C'est vraiment très inquiétant parce que la suite peut être catastrophique pour la population et pour le pays tout entier. Les militaires sont armés, les groupes djihadistes sont aussi armés. Et au milieu, il y a la population civile, et c'est elle qui subit toutes les conséquences de cette crise. C'est pourquoi je demande un sursaut de cette population pour dire stop à ces deux parties qui s'affrontent et pour tracer une nouvelle voie.
Entretien de Mahmoud Diko avec Abdoulaye Diko de la rédaction Full Day, Mandinkan des RFI.
Au Sénégal, Vincent, trois responsables d'organisations étudiantes toujours en garde à vue.
Et les autres étudiants interpellés lundi ont été libérés, eux, hier soir du commissariat central de Dakar. Mais la colère des étudiants ne retombe pas deux jours après la mort d'Abdoulaye Ba à l'université Cheikh Diop de Dakar lors d'une intervention policière. La prise de parole du gouvernement, on en parlait hier matin, n'a rien calmé. Écoutez le délégué de l'amicale de la faculté de médecine de l'UQAM.
Le but de ces arrestations, c'est juste nous empêcher de parler et de dire la vérité à la population et à l'opinion internationale. Ils essaient de nous intimider. Il y a eu mort d'homme et ils veulent cacher les choses. Ils veulent rendre justice de leur manière. Après ces annonces, vraiment, on est à bout. Ce n'est plus question de parler avec le ministre de tutelle ni avec le premier ministre. Notre principal objectif, c'est de parler directement au président de la République. S'opposer à une table de négociation, le combat de ce régime a été porté par les étudiants en majeure partie. Ils ont intérêt à ne pas durer avec la fermeture de l'université, ce qui n'arrange personne. Certains étudiants, ils habitent au fin fond du Sénégal, ils n'arrivent pas à rejoindre leur région parce qu'ils n'ont pas l'argent. Là, actuellement, ils sont dans les rues de Dakar. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. C'est nous, étudiants, qui faisons des quêtes pour leur venir en aide.
Salut au Fall de l'amicale de la faculté de médecine, interrogée par Lisa Villy, l'amicale de la faculté de médecine qui dit avoir recensé 40 blessés graves à l'UCAD. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du PDCI rencontre la presse, le principal parti d'opposition qui tente de se remettre la tête à l'endroit après son échec aux législatives de décembre. 32 sièges obtenus, moitié moins qu'en 2021. Le PDCI affirme vouloir se restructurer, Binta Diagne.
Pour le PDCI, l'année 2025 a été tumultueuse, selon les termes de son porte-parole, qui évoque notamment les remous judiciaires, mais aussi l'échec du parti aux législatives. Car le PDCI a perdu la moitié de ses sièges par rapport à la dernière législature. Cette année, en 2026, le parti compte se restructurer. Pour cela, il mène des consultations. À ce jour, près de 300 dossiers ont été reçus. Cela devrait aboutir à un débat au cours d'un bureau politique dont la date n'a pas encore été fixée. Mais le PDCI peut-il rester solide et remonter la pente en l'absence de son leader, Tidiane Thiam, en France depuis bientôt un an? Soumé Labredoumi, le porte-parole du parti, invoque l'histoire pour justifier cette prise de distance.
Le président du parti est parti pour esquiver un certain nombre de choses. Un parti politique fonctionne. Pendant des années, Yasser Arafat a été hors de la Palestine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été le président de l'ELPF, l'Organisation pour la Libération de la Palestine. Pour les Français, le général de Gaulle était obligé de faire un tour à Londres pour sauver la France. Et les exemples sont légion. Le président rentrera quand les conditions que nous estimons favorables seront remplies pour le faire.
Le PDCI réitère son appel au dialogue, une question jusque-là écartée par le gouvernement qui estime que tous les sujets ont été épuisés lors de la cinquième phase du dialogue politique en 2022. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'Europe continue de serrer la vis contre les migrations.
Oui, le gouvernement italien a adopté hier un projet de loi qui lui permettrait d'interdire provisoirement les arrivées de migrants par la mer en cas de menace. La veille, c'était à Strasbourg, en France, que les règles étaient durcies. Les eurodéputés votaient une modification du droit d'asile. Il y aurait donc, si cela a été définitivement adopté par les dirigeants européens, une liste de pays dits sûrs, où, selon l'Union européenne, il n'y a pas de persécution, de risque de torture ou de traitement inhumain. Sofiane Amazian, 3 pays africains sont cités.
Le Parlement européen approuve largement la création de cette liste des pays dits d'origine sûre, parmi eux l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Concrètement, ce changement de statut a pour objectif, selon l'Union européenne, d'accélérer la procédure de demande d'asile jugée peu susceptible de déboucher positivement. L'examen plus rapide des demandes égyptiennes, marocaines et tunisiennes n'entraînera pas automatiquement un refus, mais seule, je cite, une crainte fondée de persécution ou de risque grave au retour dans le pays d'origine sera dorénavant prise en compte. Alors que le Parlement européen estime, par la voix du rapporteur italien Alessandro Siriani, que la création de cette liste met fin à une période d'ambiguïté et propose une approche plus ferme pour lutter contre les abus. Les associations de défense des droits humains s'insurgent. Dans une tribune, la Ligue des droits de l'homme ou encore SOS Méditerranée demandent le rejet de cette liste et critiquent la présence de la Tunisie, dont la situation, selon les signataires du texte, exclut toute classification comme sûre. La mise en place de ces nouvelles règles interviendra dans plusieurs mois après l'adoption définitive par les institutions européennes.
Et signataire aussi de cette tribune, Sofiane Amazian, l'ANAFE, l'Association Nationale d'Aide aux Frontières pour les Étrangers en France. D'après son président Olivier Clochard, la Tunisie n'a rien à faire dans cette liste. Écoutez.
On se pose énormément de questions. C'est en contradiction flagrante avec la situation des droits humains qui s'observe au sein de ce pays. Beaucoup d'organisations ne cessent de le rappeler, que ce soit vis-à-vis des Tunisiens eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des personnes migrantes qui sont soit en transit ou soit installées dans ce pays. Et donc, effectivement, déclarer ce pays comme sûr, ça conduit d'une part à refuser l'accès à la protection de ces personnes qui pourraient provenir de la Tunisie, et ça conduit aussi quelque part à légitimer la violence et les persécutions qui existent depuis l'arrivée du nouveau autocrate à la tête de la Tunisie.
Un propos recueilli par Sofiane Amazian, qui est au service Afrique en ce moment. Andréane Mellard, à la tête de la matinale des RFI, à tout à l'heure.
Merci Vincent Dublanche, beaucoup de pression. Prochain journal dans 20 minutes sur RFI. Il est 7h44 à Paris, 1h de moins à Dakar. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la revue de presse africaine ce matin, la traque des homosexuels s'intensifie au Sénégal.
Constat établi par le Monde Afrique, il y a un climat de peur, de terreur même, soupire un militant de Free Sénégal, groupe de défense des droits des personnes homosexuelles, à propos de l'ambiance qui prévaut en ce moment dans le pays. Ce militant souhaite d'ailleurs rester anonyme, impossible de s'exposer ouvertement sur le sujet. Dernier signe en date de ce regain généralisé d'homophobie, pointe le journal, l'arrestation ces derniers jours de 12 personnes accusées d'actes contre nature, une expression désignant les relations sexuelles entre deux personnes de même sexe. Les 12 hommes ont été présentés lundi à un procureur. Depuis, ils sont détenus à la prison de Rebeus, dans la capitale. Parmi eux, deux célébrités, Pape Cheikh Diallo, animateur radio et télévision, qui recevait notamment des stars dans son émission Pape face à Pape Cheikh, suivi par des dizaines de milliers d'internautes, et Djibi Dramé, chanteur de fusion en Wolof et Soninké. Les prévenus risquent 1 à 5 ans d'emprisonnement. Précisons qu'ils sont non seulement accusés d'actes contre nature, mais aussi d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de transmission volontaire du VIH-Sida et de mise en danger de la vie d'autrui.
Faut-il le rappeler, l'homosexualité est un délit au Sénégal.
Oui, l'article 319 du Code pénal incrimine les relations homosexuelles passibles de peine d'emprisonnement, relève Afrique.com. Cette disposition, régulièrement débattue dans l'espace public et par les organisations de défense des droits humains, demeure en vigueur. Les poursuites engagées s'inscrivent donc dans le cadre légal actuel, même si elles suscitent des réactions contrastées au sein de l'opinion. Il est vrai qu'au sein de la société sénégalaise, l'homosexualité est largement considérée comme une déviance. Les discriminations à l'égard de la communauté LGBTQ+ sont régulières. Alors qu'il était encore dans l'opposition, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko avait promis à plusieurs reprises de durcir la répression de l'homosexualité. En 2022, il avait même fait de la lutte contre l'homosexualité un argument de campagne au cours des législatives. Dernier épisode dans cette affaire, relève le site Sénéweb à Dakar, la fouille des domiciles des accusés hier en leur présence, rien n'a été découvert, si ce n'est des préservatifs dans la résidence de l'un d'entre eux.
Alors que la plupart des médias sénégalais se contentent d'exposer les faits et de suivre l'enquête, le site d'information Sénéplus s'interroge. La tolérance disparaîtrait-elle du Sénégal ?
Il n'y a pas plus de personnes homosexuelles en Occident que dans le continent africain, affirme Sénéplus, contrairement à la croyance de certains qui voient dans l'homosexualité une déviance importée. Il y a seulement la volonté de vivre en paix et de s'épanouir par une sexualité qui n'est pas choisie, mais imposée par la nature de celui qui la vit. Aucune religion, aucun groupe ne peut dicter à ses membres le rejet d'une partie de la population. Lyncher un être humain parce qu'il est, ou pire, serait homosexuel, est indigne d'un pays, d'une civilisation. Ce qui devrait être offert aux citoyens sénégalais, affirme encore Sénéplus, c'est l'assurance qu'aucune loi ne puisse le poursuivre pour cet état-là. C'est la possibilité d'assumer son homosexualité sans faire de mal à autrui. C'est l'espérance, enfin, de vivre libre.
On revient au Monde Afrique qui constate que, très loin de cet esprit de tolérance, depuis l'arrestation des 12 hommes des émissions télévisées et radiophoniques, communient dans une homophobie qui ne connaît pas de contradiction.
J'ai un sentiment de dégoût. Des personnages médiatiques censés être des références morales se retrouvent à la pointe de cette activité diabolique, a tempêté Mam Matar Gueye, hyperactif président de l'association Jamra, très active dans la mobilisation contre les droits des personnes homosexuelles sur la chaîne Walf. Et pour sa part, pointe encore le Monde Afrique, Mass Mboup, leader du mouvement Ansam Jikoyi, entièrement dédié à la criminalisation de l'homosexualité, a profité de l'affaire pour exiger à nouveau un durcissement de la législation.
Frédéric Couteau, vous revenez dans une demi-heure sur notre antenne pour la revue de presse internationale avec à la une cette question, l'Europe va-t-elle se réveiller ?
Avec deux rendez-vous diplomatiques cruciaux, aujourd'hui en Belgique et demain en Allemagne, la presse européenne est unanime face à la Chine, face aux États-Unis. Face à la Russie, l'Europe doit monter en puissance.
On en parle à 7h15, temps universel.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et l'Europe, effectivement, et ses dirigeants réunis aujourd'hui en Belgique, près de Liège, un sommet informel censé se concentrer sur le sujet de la compétitivité européenne. La France et l'Allemagne arrivent avec des positions très éloignées sur le sujet, notamment en ce qui concerne la possibilité d'emprunter collectivement au sein de l'UE pour financer des investissements massifs. Paris est pour, Berlin est contre. Nous appellerons Pierre Benazet dans le prochain journal. La deuxième ville de Madagascar, Tamatave, en grande partie détruite après après le passage du cyclone Guézani, la capitale économique détruite à 75% et le bilan humain s'alourdit. On compte 31 morts à ce stade et 250 000 sinistrés. Face à l'ampleur du désastre, le pouvoir militaire a lancé un appel à l'aide internationale. Il appelle la population à voter massivement ce jeudi afin de déjouer les complots. Tariq Rahman, chef du parti nationaliste du Bangladesh, favori de ces législatives organisées aujourd'hui dans le pays. De son côté, le chef des islamistes, autre parti en lice, promet de faire tout ce qu'il faut pour des élections transparentes. 127 millions de Bangladais sont appelés aux urnes ce jeudi pour ce tout premier scrutin depuis la destitution en 2024 de la première ministre Sheikh Hasina. En Ukraine, la Russie a lancé tôt ce matin une vaste attaque de missiles sur la capitale Kiev. L'Ukraine n'organisera des élections qu'après l'obtention d'un cessez-le-feu et des garanties de sécurité, a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump a reçu ce mercredi à la Maison-Blanche le premier ministre israélien. Le dirigeant américain a insisté sur sa volonté de poursuivre les négociations avec l'Iran. Benjamin Netanyahou plaidant de son côté pour la prise en compte des besoins sécuritaires de son pays dans ses négociations. Et puis en visite à Caracas, le ministre américain de l'énergie a promis hier une hausse spectaculaire de la production de pétrole au Venezuela. Chris Wright a aussi jugé que l'embargo américain était pour l'essentiel terminé.
RFI Matin.
On en parle très régulièrement sur RFI, les violences qui se poursuivent dans l'est de la RDC malgré l'accord signé à Washington, malgré l'accord cadre de Doha, malgré les négociations qui se poursuivent. Hier, vous entendiez sur notre antenne le porte-parole du gouvernement de République démocratique du Congo. Ce matin, notre invité est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiréhé. Il répond aux accusations de mensonges portées par la RDC qu'il accuse en retour de porter la responsabilité de la guerre. Le ministre rwandais balaie également les menaces de sanctions internationales, notamment américaines. À Addis Abeba, en amont du sommet à venir de l'Union africaine, le chef de la diplomatie rwandaise répond aux questions de notre envoyé spécial sur place, David Bachet.
Olivier Ndoungiréhé, monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
La guerre dans l'est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM-23 s'est retirée de la ville d'Uvira, un pas important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drones à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'est de la RDC ?
Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaque aérienne de la part du gouvernement congolais contre les positions de la FCM-23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge, dans un contexte de montée des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu par la main, mais pas par le cœur. Donc c'est ça le problème.
Vous parlez aujourd'hui des Banyamulenge. Hier, le Rwanda faisait reposer le problème sur la présence des FDLR, cette rébellion créée par d'anciens génocidaires et qui continue de vouloir renverser le régime au Rwanda. Côté congolais, on accuse le Rwanda de maintenir cette guerre pour s'accaparer les minerais.
Oh, ça c'est un discours simpliste et ils savent bien que cela n'est pas la vérité. Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu les accords de Washington. Il doit y avoir un engagement de la RDC de neutraliser les FDLR et de permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être résolue par la neutralisation comme l'exigent les accords de Washington.
Le Rwanda vient de confirmer fin janvier une coordination sécuritaire avec la FCM-23, alors que votre pays, monsieur le ministre, démentait jusqu'alors soutenir militairement ce groupe armé. Pourquoi le reconnaître à présent ?
Parce que la FCM-23 est un mouvement congolais.
Soutenu par le Rwanda.
Il y a des intérêts communs entre le Rwanda et la FCM-23. Et ces intérêts communs s'appellent FDLR.
Mais pourquoi le reconnaître maintenant ? Pourquoi l'avoir démenti auparavant ? Patrick Muyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un régime assis sur le mensonge. Il l'a redit en substance sur notre antenne hier. Que lui répondez-vous ?
Oh, le mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Muyaya, puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et à l'heure où on vous parle, les FDLR DLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Donc quand Patrick Muyaya parle de mensonges, il sait de quoi il parle.
Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision assez rapidement. Alors on a entendu il y a quelques jours le président Paul Kagame répondre à cette menace avec véhémence. Vous non plus, monsieur le ministre, cela ne vous effraie pas plus que cela?
Si les sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques de la RDC, je signerais demain matin. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda? Est-ce que ça a réglé le problème de la RDC, de M23 pour autant? Non. La guerre a repris 8 ans plus tard, en octobre 2021. Donc cette histoire de sanctions, comme si c'était une baguette magique, ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune sanction dans ce bas monde qui va nous empêcher de sécuriser notre frontière et de s'assurer que notre population ne subisse pas ce qu'elle a subi en 1994 aux mains des FDLR.
Et ça ne serait pas un coup dur pour le régime, pour sa stature internationale, pour l'attrait économique du Rwanda aussi?
Non, mais ça s'est fait déjà dans le passé, donc ça c'est pas une question qui est valide. Nous sommes dans un monde où chacun doit porter sa croix. Les sanctions, on ne les craint pas. Et ce n'est pas le sujet. Le sujet est de régler le problème congolais à la source, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes.
Est-ce que les accords de Washington, finalement, n'assurent pas surtout les intérêts économiques américains, l'approvisionnement en minerais notamment, sans atteindre les conditions d'une paix effective sur le terrain entre vos deux pays, le Rwanda, monsieur le ministre, et la RDC?
Les accords de Washington pour la paix et la prospérité ont d'abord une composante sécuritaire.
Mais ça ne marche pas apparemment sur le terrain.
Ça ne marche pas puisque ça n'est pas mis en œuvre. Et donc c'est pour ça que nous avons appelé aux États-Unis et même à l'Union africaine, à la médiation africaine, pour régler cette question sécuritaire, ce qui va ouvrir la voie à une mise en œuvre du volet économique.
C'est-à-dire, donc vous y croyez toujours?
On y croit toujours, bien sûr. S'il y a dans la préservation des intérêts américains, il y a une paix durable dans la région, nous on est preneurs.
Olivier Ndoungirehe, monsieur le ministre, merci.
Olivier Ndoungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, il répondait à David Baché à Addis Abeba. Maman, ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana, la composition du nouveau gouvernement se fait toujours attendre.
Oui, à cause de la fatigue présidentielle, l'entourage a pris la télécommande du navire très très démocratique république qui se retrouve alors dans une situation inédite. Depuis des mois, on attend le remaniement ministériel, mais rien n'arrive. La fumée blanche refuse de sortir de la cheminée du palais présidentiel, niché là-haut dans les collines surplombant Gondwana City, notre belle capitale. La raison est toute simple. N'allez pas croire que président fondateur n'arrive pas à trouver des candidats pour les portefeuilles ministériels. Non, au contraire, il y en a à pléthore des candidats pour être ministre. Au Gondwana, tout le monde rêve d'être ministre parce que la place est trop bonne. D'ailleurs, elle est là la raison pour laquelle on n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Personne ne veut partir. Bah oui, les actuels ministres sont tous en train de chanter la chanson de Salif Keita, nous pas bouger, pas moyen bouger. Eh oui, les ministres ne sont pas sourds et aveugles, ils entendent, ils voient, ils ont entendu et ils ont vu. Bah oui, la nouvelle de la fatigue présidentielle est arrivée jusqu'à leurs yeux et oreilles. Ils savent que le pays est piloté par Bluetooth, Wi-Fi et THI, très hautes instructions. Et donc, quand on parle de remaniement ministériel, bah, ils ne s'inquiètent même pas. Hein. Dis donc, vous avez entendu, président fondateur veut changer le gouvernement. Hein. Attends, président fondateur ou bien qui on sait? Réponse 2, hein. Dans ce cas, on reste, on bouge pas. C'est devenu un gouvernement de squatteurs. Le ministre du Logement et des Déguerpissements ne quitte plus son bureau et il dort dans son canapé. Et celui de la Santé fait semblant d'être malade pour qu'on ne le change pas. Et le ministre de la Culture organise des conférences sur l'immobilisme comme art national. Pendant ce temps, président fondateur médite. Bah oui, il ne parle plus trop de politique, ça ne l'intéresse plus. Désormais, ses sujets de prédilection sont plus spirituels. Le silence intérieur, la sieste productive et l'art de la méditation dans le jardin. Mais attention, il est toujours là quand même, hein, président fondateur. Quand on lui demande un avis sur la situation du pays, il répond avec la sagesse des moines tibétains « Laissez le temps au temps ». Et effectivement, l'entourage laisse le temps faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire s'écouler. Le temps s'écoule, il passe et rien ne se passe. Toujours pas de gouvernement. gouvernement. Le slogan officiel est devenu « Pas de gouvernement, pas de problème ». Le Gondwanais lambda y voit même un avantage. Bah oui, moins de ministres au travail, moins de discours à la télé, moins de cortèges dans la circulation, moins d'embouteillages dans la ville. Et comme il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement, eh bien, le pays roule en mode automatique, comme une voiture qui a perdu son chauffeur, mais les passagers refusent de descendre. On continue de rouler tout droit devant en priant qu'il n'y ait pas de virage. À lundi.
À lundi, Maman. La dernière heure des Rafi Matin à suivre, le journal et puis la revue de presse internationale. Belle journée, bon réveil.
Quelle distance vous sépare des 49 journalistes actuellement détenus en Russie? 30 000 ou 5 000 km? Quelle distance vous sépare des dizaines de journalistes agressés en Serbie alors qu'ils couvraient des manifestations anti-gouvernement? 10 000 ou 2 000 km? Quelle distance vous sépare des campagnes de désinformation sur votre téléphone? 0 cm. En 40 ans, la menace contre l'information n'a jamais été aussi proche de vous. Aidez-nous à défendre l'information fiable. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières. Se battre pour les faits.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Née dans une famille marocaine installée en France, Samira El Ayachi se demande comment se construire comme femme entre deux pays, deux langues, deux cultures. Et si la réponse était dans la littérature? Comme l'indique le titre de son roman, Madame